Pour poursuivre le programme de cette nuit consacrée à une évocation de la nuit du 17 octobre 1961, en hommage aux victimes de la répression policière des manifestations pacifiques de ce jour-là, nous vous proposons d'écouter des extraits d'une autre émission Bistan Clac du 21 octobre 2002, durant laquelle nous reprenions les propos tenus en direct par l'avocat lyonnais militant des droits de l'homme Hugo Iannucci, le 17 octobre 2002, dans le Canu Info de ce jour-là. Notre émission de ce soir est consacrée à une évocation du 17 octobre 1961. Pour la commencer, nous vous proposons d'entendre Hugo Iannucci, qui était intervenu sur notre radio le 17 octobre 2001, à l'occasion d'un Canu Info. Hugo Iannucci, nous vous le rappelons, est président de la chaire lyonnaise des droits de l'homme. Il est aussi ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon et donc à tous ses titres un inlassable défenseur des droits de l'homme. Il a vécu d'assez près ces événements d'Algérie puisqu'il en a aussi témoigné dans un ouvrage qu'il a réalisé. Et ce soir-là, à l'occasion des 40 ans du 17 octobre 61, il évoquait, en remettant en perspective, les événements de ce jour-là.
Alors moi je voudrais revenir, si vous permettez, quelques instants sur la journée du 17 octobre que j'ai suivie ici lorsque j'ai été démobilisé. J'ai constaté que la presse a été relativement silencieuse. Il y a eu quelques interrogations dans des journaux comme Le Monde, comme La Croix, où effectivement on doutait des chiffres donnés par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur, par M. Papon. M. Papon, par exemple, interrogé par M. Claude Bourdet le 27 octobre au conseil municipal de Paris, par Claude Bourdet, qui lui demande « Est-il vrai que 150 cadavres ont été retrouvés dans la Seine entre Paris et Rouen ?» Réponse de M. Papon, « La police parisienne a fait tout simplement ce qu'elle devait. » Et à l'époque, on reconnaissait 5 à 6 morts, mais, disait-on, les policiers ont agi en état de légitime.
Paris sous la pluie, trempé comme une soupe, sous comme une barrique. Notre-Dame est vierge, même si elle est à tout le monde, et malgré son penchant pour les cierges, oh. À l'heure où les gardes du bail, le bossu du parvis s'en va pisser sa nuit dans les gogues du diable, alors paf les gargouilles sur les premières grenouilles, sentant de bénitier bien plus bête que leur pied, qui ne fut jamais pris au pas de mauvais pli. Dans leur lit refroidi, tombeau des vieilles filles, la chaude la vertu, pourtant pas de ciel en vue, surtout pas de septième, pour ses corps en carême, au cœur empaillé, au cul empastillé, à l'abri des bascules, et à leur grande âme, qui est toute minuscule, ne connaîtront jamais ni la grâce ni l'air, pas ce matinée, est-ce pendant que Paris, Paris sous, Paris, Paris, Paris sous, en dessous de tout, des saules par-dessus les ponts. Que la Seine est jolie, ne serait-ce Morimont qui déshonore son lit, mais qu'elle traîne par le fond, inhumant dans l'oubli. Une Seine tuerie, c'est paraît-il légal. Les ordres sont les ordres, c'est Paris qui régale. Ma policière horde de coups et de sang ivre, qui eurent carte et nuit blanche pour leur apprendre à vivre. À ces rats souches pas franches, d'un sang impur et noir, à preuve de caniveau, et on leur fit la peau avant de perdre la mémoire. Les pendants enragés aux fenêtres consentantes, et en passant soit dit, des mots acquiescent, furent pourtant résonnés de la chaussée sanglante, jusque dans les Aurès, leur prison se relie sous la froide chaux vive, de pire indifférence, accompagnée de vive, des coups de caisse et la France. L'histoire me chatouille, pas toujours au bon endroit. Au bon peuple François, dors sur tes deux oreilles, mais je ne tirerai pas. Moi semble qu'aujourd'hui, que l'histoire me s'enraye sous le ciel de Paris.
Or, on sait très bien, tous les journalistes, à mon avis, ont peut-être manqué de courage à l'époque, parce qu'un événement d'une telle ampleur, avec 11 538 arrestations reconnues par M. Papon par la suite, un événement d'une telle ampleur ne pouvait pas passer inaperçu. Or, à l'époque, il faut vous souvenir, les journaux qui contestaient le gouvernement étaient très souvent saisis. Et je crois qu'il y a eu une espèce de réflexe en disant, bon, c'est peut-être pas le moment, ou on n'a peut-être pas les éléments suffisants. Mais il y a eu peu à peu, par la réponse de M. Papon, on voit très bien qu'on veut faire le silence, c'est-à-dire on répond par des généralités, on ne veut pas répondre précisément. On a vu peu à peu que s'est installé un silence d'État au nom de la raison d'État. La police supportait mal les attentats de militants du FLN contre les commissariats. Il y avait, je crois, dans les mois qui ont précédé le 17 octobre, il y a eu une vingtaine de policiers tués à Paris. En plus, il y avait quand même une influence assez forte des, appelons-les les ultras, si vous voulez, notamment de l'OAS au sein de la police. Et il faut dire aussi que M. Papon avait préparé le terrain. Le 17 octobre a eu lieu parce que le FLN a entendu protester contre un couvre-feu imposé par M. Papon dès le début du mois d'octobre aux Algériens, qui leur interdisait de circuler dans les rues de Paris et dans la banlieue parisienne de 20h30 le soir jusqu'à 5h30 le matin. Les débits de boissons tenus par des Algériens devaient fermer à 19h. Donc il y a eu une manifestation pacifique, et là toutes les instructions données par le FLN disaient qu'il fallait aller à la manifestation sans armes. D'ailleurs, aucune arme n'a été saisie par les policiers à la suite de ces arrestations, des arrestations multiples. Mais M. Papon avait préparé les policiers à l'affrontement. Et en visitant les commissariats quelques jours auparavant, il avait dit aux policiers, quoi que vous fassiez, vous serez couverts. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut aussi préciser ce qu'on ignore. On connaît maintenant M. Papon dans son rôle de secrétaire général de la préfecture de Bordeaux pendant l'occupation et sa condamnation. Ce qu'on ignore, c'est que quelques temps avant le 17 octobre 1961, il était IGAM à Constantine, c'est-à-dire il était super-préfet. Et déjà, il avait dit à l'époque, pour combattre une guerre subversive, il ne faut pas employer des moyens réguliers. Donc il légitimait lui aussi des moyens exceptionnels comme les exécutions ou la torture. Donc il avait un sens de du service de l'État tout à fait particulier et tout à fait dangereux. Ce qui fait que les policiers, si vous voulez, se sont débridés tout à fait facilement. Et puis, moi je crois que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que ceci a été vraiment très bien préparé, puisque M. Papon avait réquisitionné les bus de la RATP avant la manifestation, réquisitionner le palais des sports, le parc des expositions de la porte de Versailles, le stade de Coubertin. Vous voyez, toute proportion gardée, c'est la rafle de Veldive. Donc quand il y a des moyens aussi importants qui sont préparés avant une manifestation, c'est qu'on avait bien l'intention, si vous voulez, de taper.
On a planifié le massacre.
Voilà. Alors ce qu'il y a eu effectivement, c'est que on a jeté des manifestants par-dessus les ponts, Et c'est pour la raison pour laquelle on a retrouvé des dizaines de cadavres dans la Seine. Alors bien sûr, là aussi, on a tout mélangé. On a dit, mais ça, c'est les règlements de compte entre le FLN, le LMNA, etc. Bien. Et puis, on a aussi torturé pendant des jours. Et je crois que, je ne sais plus quel journaliste a dit justement que sous les yeux même de M. Papon, dans la cour de la préfecture de police de Paris, on matraquait. Et puis, il y a eu quand même à l'époque un texte qui était signé par des policiers républicains.
Exactement.
En réalité, c'était un policier communiste qui, ayant recueilli tout de suite de la part de certains policiers qui avaient fait la résistance, et qui donc acceptaient mal ces procédés, toute une série d'informations, un texte a circulé, mais qui malheureusement n'a pas eu d'écho médiatique, où effectivement on reconnaissait des... Alors tout ça intervient alors que nous sommes à quelques semaines des accords d'Évian, alors que les pourparlers avaient été engagés. Donc au niveau de l'État, bon, le général de Gaulle était président de la République, M. Debré, président du Conseil, M. Roger Frey, ministre de l'Intérieur, M. Papon, préfet de police, on voit quand même que à la fois on négocie et en même temps on applique la force. Et en Algérie d'ailleurs, le système de torture que j'évoquais tout à l'heure a continué même après l'avenue du général de Gaulle, en dépit des déclarations de certains hommes comme Malraux qui disaient maintenant la torture a disparu. Donc vous voyez, cette situation historique est tout à fait complexe et on voit des mouvements qui apparaissent apparemment contradictoires. Alors au niveau du bilan, bon, au départ on a reconnu 6 morts. Et puis, en 98, il y a eu un conseiller d'État qui a fait une enquête. Il lui parle de 32 morts. Et puis, il y a eu un avocat général de la Cour de cassation qui a fait une nouvelle enquête à la demande du gouvernement. Il parle de 48 morts minimum. Mais, non pas l'historien, mais l'écrivain Enodi, qui fait un travail remarquable d'historien d'après Pierre Vidal-Naquet. Lui évoque un bilan bien plus lourd, entre 150 et 300 morts.
Oui.
Et il faut dire que il est appuyé par un responsable gaulliste. Monsieur Constantin Melnik était chargé à l'époque, il était chargé des affaires de police auprès du Premier ministre, monsieur Michel Debré. Et lui, quand il y a eu ce débat, a parlé lui aussi d'un chiffre entre 150 et 300 morts. Enfin, quand on pense, là aussi, je reviens toujours, la France, qui se dit état de droit, qui se dit pays des droits de l'homme, réprimer de cette façon sauvage une manifestation pacifique, moi je crois qu'il y a de quoi, effectivement, avoir honte. Et il est temps, effectivement, de dire la vérité. C'est toujours la même chose, on nous parle, dit, il ne faut pas réveiller Sylvie Corel, il faut penser à l'Union, il faut tourner la page. Non, moi je crois que on ne peut vraiment avancer que si on reconnaît des erreurs ou des crimes. D'ailleurs, c'est ce que demandent généralement les victimes. Moi, j'ai vu au cours du procès Barbie, au cours du procès Touvier, elles n'ont pas tant témoigné ou réclamé pour une sanction, peine d'emprisonnement ou autre. Elles venaient surtout pour s'exprimer, pour dire la vérité, pour qu'on reconnaisse. En Afrique du Sud, par exemple, Mandela a eu une idée extraordinaire, c'est de créer cette commission Vérité et Réconciliation qui a parcouru tout le pays. Dossier en main, on a obligé ceux qui avaient torturé ou ceux qui avaient exécuté sommairement à reconnaître les faits devant les victimes. Et pour les victimes, ça a suffi. C'est pas tellement la sanction pénale proprement dite, mais c'est le fait que la vérité apparaisse.
Oui.
Donc moi je crois que ce travail de vérité, il faut que nous le fassions, sinon effectivement nous ne serons pas dignes de...
L'avenir lu par les fachos, les chambres à gaz à Treblinka. On ne savait pas, les tortionnaires, la Gégène, et les corps flottant dans la Seine, au doigt le soir au pont de l'Alma. On ne savait pas.
Même quand l'histoire se répète, les massacres à coups de machette, la Bosnie et le Rwanda, on ne savait pas. les filles niées sous les voiles, les enfants qui coûtent 100 balles sur les trottoirs de Calcutta. On ne savait pas.
Le chant des soldats de Crown, la bouche du métro Charonne, terminus, on vous descend là. On ne savait pas la main qu'on arrache aux voleurs, la langue qu'on coupe aux menteurs, et puis le bon Dieu dans tout ça. On ne savait pas.
15 ans pour atteindre son sort, au bout des couloirs de la mort, tout est en deux, on a le choix. On ne savait pas, le marchand de mort est passé sur le sable du clairé, au dos de l'enfant d'eau dormira.
On ne savait pas. Des morceaux de terre qui crèvent, un virus a pris la relève, du sang réchauffé, du sang froid. On ne savait pas, les peuples entiers qu'on colonise, les gens qu'on adapte à la crise, ça fera une guerre, on dira. On ne savait pas, c'était il y a longtemps, c'est pas neuf, l'année finissait par un œuf, au siècle dernier c'est pour ça. Qu'on ne savait pas, c'était il y a longtemps, c'est pas neuf, l'année finissait par un œuf, au siècle dernier, c'est pour ça qu'on ne savait pas.
Vous venez d'entendre Remo Gary et Michel Bernard interpréter une composition de Remo Gary, On ne savait pas. Après que vous ayez entendu La Tordue interprétée sans sa composition Paris, octobre 61. L'émission Bistentlac de ce soir, nous vous le rappelons, est consacrée à une évocation de ce 17 octobre 61, 41 ans après. Elle a commencé avec une intervention en différé de Hugo Iannucci qui, lors d'un canu info, donc, évoquait cet événement. We can't let go.